Vous êtes sur RTL.
RTL.
Salut, ça
va? Ouais, mais t'es qui?
Beau gosse.
Il est trop beau. Il est trop moche.
J'imagine que tu voudrais pas trop sortir avec moi.
Non.
Le journal inattendu.
Mon premier dessin, je crois que c'est ce que je raconte dans ma BD L'Arabe du Futur. Je crois que j'avais dessiné le président Pompidou. En fait, c'est ma grand-mère qui avait trouvé que ça ressemblait à Pompidou. Et elle avait donc décrété que j'étais un génie parce que j'étais capable de dessiner Pompidou alors que j'avais 2 ans.
12h30, 13h30.
Je m'appelle Esther et cette semaine, j'ai eu 11 ans. Savez-vous que cette année, j'ai raconté des histoires de ma vie à un copain dessinateur de mon père? Ouais, j'ai 3 amoureux en même temps. Ouais, 3, ouais.
Hey Esther, il y a le journaliste qui est là, tu sais, il voudrait savoir s'il peut t'interviewer.
Ah ouais? Bah avec plaisir. Hey, je suis une star.
Le journal inattendu de Riyad Satouf avec Ophélie Meunier sur RTL.
Et là, c'est la journaliste qui vient vous interviewer. Vous êtes une star. Bonjour, Riyad Satouf.
Bonjour, Ophélie.
On a entendu un extrait de votre film Les Beaux Gosses et de la série avec votre personnage, Esther. Dessinateur, réalisateur, c'est vous qui prenez les commandes du journal inattendu aujourd'hui. Au programme, le 5e tome de L'Arabe du Futur qui vient de sortir. La série L'Arabe du Futur, c'est 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est quoi le secret du succès? Vous nous le direz. Au cours de cette heure ensemble, également votre regard sur l'actualité et les infos du jour. Comme chaque semaine, le reportage inattendu, l'invité que vous avez choisi de recevoir et une petite surprise qui vous attend à la fin de cette émission. Mais d'abord, vous le savez, le journal inattendu commence toujours par l'autoportrait, un exercice que vous maîtrisez à la perfection. Les lecteurs de L'Arabe du Futur le savent, au début de chaque tome, vous faites une petite description de vous-même. Dans le tome 5, le nouveau, vous avez 14 ans et vous dites qu'à cet âge-là, vous n'osiez pas regarder dans les yeux, vous vous teniez voûté car vous étiez peureux et vous pensiez toujours que vous étiez sublime et tout frais. Répondu sans vous rendre compte que vous étiez un cas social. Ça, c'était en 92. Aujourd'hui, vous avez 42 ans, Riyad Satouf. Alors, votre autoportrait, ça donne quoi? Vous avez une minute pour vous présenter.
Alors, je m'appelle Riyad Satouf. J'ai en effet 42 ans. Je mesure 1m72 et je tiens aux 2 cm de plus. Je fais des livres depuis 22 ans maintenant, ce qui signifie que j'ai passé plus de temps de vie en étant auteur que en étant autre chose. Et ça, j'en suis très très fier. Donc en temps normal, je passe mes journées confinées dans mon bureau, même quand il n'y a pas de confinement, à réfléchir à mes livres. Et faire des livres, ça m'obsède totalement. Mes livres, je les écris, je les dessine, je les mets en forme, je choisis le papier, je vais chez l'imprimeur tourner tous les boutons pour qu'il rajoute de l'encre. C'est vraiment ma passion. En plus, je les collectionne aussi. Tous mes murs sont pleins de livres et je pourrais pas vivre sans. J'ai grandi dans un tout petit village en Syrie, situé près de la ville de Homs, où il n'y avait pas de bibliothèque ni de librairie. Je suis devenu auteur parce que ma grand-mère bretonne m'envoyait des par la poste qui mettait un mois et demi à arriver dans ce village. Alors pour moi, le livre a été un bien essentiel. Je ne crois pas du tout en Dieu, mais j'ai toujours adoré le paranormal, l'occultisme, etc. Et c'est ce que je raconte dans le tome 5 de L'Arabe du Futur. Même que j'avais une arrière-grand-mère qui était censée être médium. Mais hélas, je n'ai jamais vu de trucs surnaturels. Enfin, le seul phénomène vraiment magique que j'ai quand même pu observer est le succès incroyable de ma série de bandes dessinées. Parce qu'avoir plein de lectrices et de lecteurs qui lisent pas de bandes dessinées en temps normal et qui aiment mes livres, connaissent l'histoire de ma famille mieux que moi, alors que cette histoire intéressait personne pendant 35 ans, moi je dis que c'est magique. Voilà, c'était moi.
Et c'était le début de L'Arabe du Futur numéro 37. Aujourd'hui, en tout cas, on va parler de L'Arabe du Futur numéro 5. Mais d'abord, l'actualité avec à la une aujourd'hui les patrons des commerces non essentiels qui continuent de se mobiliser pour sauver leur fin d'année. Prochaine échéance importante pour les commerçants, le Black Friday, prévu le 27 novembre. Sera-t-il maintenu? Les magasins pourront-ils finalement ouvrir? Réponse dans ce journal avec le chef du service économie d'RTL. Alors que la situation sanitaire est toujours préoccupante en France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande plus de fermeté aux forces de l'ordre dans les contrôles du confinement. Les gendarmes et policiers seront plus nombreux ce week-end à vérifier les attestations de déplacement. Aux États-Unis, pour la première fois, Donald Trump ouvre une porte à une éventuelle défaite, mais pas encore ses supporters. Une manifestation pro-Trump est prévue cet après-midi à Washington et vous pourrez la suivre en direct avec notre envoyé spécial sur notre antenne. Et puis, rendez-vous très important ce soir pour l'équipe de France de football. Les Bleus affrontent le Portugal en Ligue des Nations. 2 enjeux: faire oublier la défaite de mercredi contre la Finlande et détrôner l'actuel tenant du titre. Malgré le confinement, Valérie, le soleil traversera les fenêtres de nos maisons ce week-end.
Ah, c'est joliment dit. Oui, c'est vrai que les éclaircies vont très largement dominer sur tout le territoire. Alors, on a quand même une petite dégradation qui frôle la pointe bretonne à l'heure qu'il est. Ça donne du vent et des pluies sur le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan. Dégradation qui va avancer, qui va concerner tout le nord-ouest d'ici la fin de la journée. Puis, on a quelques entrées maritimes également dans le golfe du Lion. Ça donne un ciel chargé en Languedoc et en Roussillon. Pour tous les autres, du soleil et des températures franchement douces, trop douces. 16 degrés attendus à Cambrai cet après-midi, 17 à Paris et Grenoble, 19 à Vaison-la-Romaine et 20 degrés à Toulouse.
Voilà, pas de bonnes excuses pour passer du temps en dehors de chez nous. Restez bien
à la fenêtre.
À la maison. Merci Valérie. À 13h, la météo, c'est vous, Riyad Satouf, qui nous la ferez.
Le journal inattendu sur RTL.
Les patrons des commerces non essentiels demandent avec de plus en plus d'insistance de l'aide. Avant l'arrivée de Noël, cette semaine, je vous le rappelle, le Premier ministre a confirmé que les règles du confinement n'évolueraient pas d'ici le 1er décembre. D'ailleurs, la prochaine échéance importante pour les commerçants avant même Noël, c'est le Black Friday, de tradition américaine. Il est devenu en quelques années un rendez-vous incontournable aussi chez nous. Il y a une semaine exactement, les présidents des principales fédérations des commerces de France ont demandé l'annulation du Black Friday. Bonjour Martial Duvou, vous êtes chef du service économie de RTL. Alors, où en est cette demande ?
Eh bien, le combat des commerçants n'est plus de faire interdire le Black Friday en réalité, d'autant que Bruno Le Maire a dit que c'était une initiative privée et que le gouvernement ne pouvait rien y faire. Non, l'idée maintenant, c'est d'être ouvert pour le Black Friday. C'est une nuance importante parce que l'un d'eux me disait, si on ouvre 4 jours après, on aura tout perdu. Donc idéalement, les commerçants ont encore plaidé d'ailleurs hier auprès du gouvernement pour obtenir une réouverture le 27 novembre en même temps que le Black Friday. Ça leur permettrait de gagner un week-end et au moment de Noël, chaque week-end compte bien sûr. L'autre possibilité, c'est de repousser le Black Friday au 1er décembre. Et sur ce point d'ailleurs, Amazon, le plus gros acteur du Black Friday, n'a pas dit non. Hein. C'est une possibilité, disait encore hier le patron d'Amazon France. Les commerçants, eux, pourraient même proposer un White Friday, des promotions dans les magasins physiques par opposition à la fête, bien sûr, des promos sur Internet.
Et alors, quelles concessions les commerçants sont-ils prêts à faire pour ouvrir dès le 27 novembre ?
Les commerçants sont prêts à renforcer le protocole sanitaire, c'est-à-dire une personne dans le magasin pour 8 mètres carrés, c'est deux fois plus hein, en termes de périmètre qu'aujourd'hui. C'est une concession importante parce que dans beaucoup de boutiques, bien sûr, ça veut dire 1 à 2 clients à la fois, pas plus. Des horaires d'ouverture également plus larges, de 8h à 20h, et puis tous les dimanches ouverts en décembre avant les fêtes.
Martial, le Black Friday, c'est d'autant plus important pour les commerçants que c'est un jour où le nombre de transactions bat des records hein, chaque année.
Ah oui, bien sûr. L'an dernier, on avait comptabilisé plus de 56 millions de transactions bancaires pour le Black Friday. C'était le plus fort week-end d'achat de l'année, 6 millions de plus que l'année d'avant. Ça veut dire, en gros, pour vous donner une idée, plus de 600 achats à la seconde l'année dernière.
Et ça pourrait être le top départ des achats de Noël. Merci Martial You, chef du service économie de RTL. Depuis le début de ce deuxième confinement, les commerçants, artisans, indépendants qui ont interdiction de travailler et qui sont très inquiets ont décidé de faire entendre leur colère. Les manifestations se multiplient. Un nouveau rassemblement est prévu cet après-midi à 14h devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. Les petites entreprises de proximité se disent sacrifiées au nom de la lutte contre le Covid-19. C'est le cas aussi des libraires, hein, Riyad Satouf. On en a beaucoup parlé dans nos journaux. Votre dernier livre, L'Arabe du Futur 5, est sorti en plein confinement. Comment vous vivez cette situation ? Que vous disent les libraires ?
Ah oui, c'est vrai que c'est une situation très très compliquée. Alors il y a énormément de librairies indépendantes qui sont quand même ouvertes et qui pratiquent le clic et réplique, ou clic et viens chercher ta petite commande. Et donc c'est vrai que c'est une période critique pour les libraires. Alors bien sûr, il y a des grosses librairies qui traverseront ça bien, mais il y a des toutes petites librairies pour qui ces 2 mois sont absolument, absolument critiques. Et c'est vrai que j'ai fait un dessin en soutien aux librairies parce que le syndicat des libraires souhaitait rouvrir et donc il n'en a pas eu l'autorisation. Et j'étais déçu qu'il n'y ait pas de mots pour la culture, en effet, qu'il n'y ait pas un symbole mis en avant par le président de la République pour la culture.
Depuis début novembre, ce nouveau confinement semble un peu pris à la légère, malgré tout, par les Français. Et le ministre de l'Intérieur a décidé de durcir le ton. Gérald Darmanin a demandé en début de semaine au préfet plus de fermeté dans les contrôles du confinement. Depuis 48 heures, les forces de l'ordre ont réagi. Les points de contrôle se multiplient, notamment à l'heure de sortie des bureaux pour vérifier les attestations de déplacement, comme c'est le cas dans la région nantaise.
Bonjour, patron gendarmerie. Bonjour. Je vais demander les papiers de la voiture, s'il vous plaît, votre permis de conduire et votre attestation de déplacement.
Je vais chercher mon fils.
Posez tout sur le tableau de bord.
Alors nous sommes sur une 20aine de points de contrôle. C'est aussi à titre éducatif et coercitif bien évidemment pour l'application stricte des mesures gouvernementales.
Propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL. Côté chiffres, la situation sanitaire reste préoccupante. 1 mort sur 4 en France est lié au Covid-19. Et d'après le Premier ministre, 95% des capacités en réanimation sont occupées. Riyad Satou, vous êtes plutôt un obéissant aux règles du confinement. Comment vous le vivez ?
Ah, bien sûr, complètement obéissant. Et surtout, personnellement, je suis pas un médecin du tout, mais je pense qu'on s'est déconfiné trop vite et qu'on n'a pas été voir ce qu'ont fait les autres. Par exemple, en Asie, en Corée du Sud, au Vietnam, ils ont vaincu le coronavirus. Il n'y a aucune délégation n'est allée voir ce qu'ils avaient fait pour se débarrasser du virus. Donc c'est vrai que voilà, moi, je fais très, très attention. Bon, après, comme je le disais, auteur de BD, c'est un peu une vie de confiné. Donc ça n'a pas changé grand-chose pour moi, mais oui, je me lave les mains tout le temps, j'essaie de me tenir loin des gens et j'espère qu'on va s'en sortir.
Et vous avez bien gardé votre masque en studio.
Exactement.
Aujourd'hui. Le confinement, de manière générale, le premier ou celui-ci, est-ce que c'est un moment de création pour vous ?
Alors, moi, c'est vrai que j'avoue que ça n'a pas changé grand-chose pour moi parce que, alors, il faut savoir que les grandes épidémies comme ça, c'est quand même présent dans l'histoire de l'humanité. Mmh. Et surtout, comme je le disais, c'est déjà arrivé en Asie. Alors j'ai beaucoup voyagé, ce qui est extraordinaire c'est que ça nous arrive à nous, donc on a l'impression que quelque chose nous tombe sur la tête, mais il y a quelque chose de très humain et animal aussi à ça, on se protège face à une maladie. Voilà, moi ça n'a pas... bien sûr j'avais très peur pour mes proches, etc. Mais ça n'a pas changé grand chose dans mon processus, j'étais en train d'écrire le rap du futur 5 et je l'ai terminé pendant le premier confinement.
Et pendant ce deuxième confinement, vous démarrez quoi alors ? Désolée, mais là, j'ai trop envie de vous poser la question.
Pour l'instant, je suis en train d'écrire le tome 6. Et puis, comme j'ai mon tome 5 qui est en librairie, je suis avec Ophélie Meunier. Et je garde bien mon masque, car elle pourrait être asymptomatique. On ne sait jamais.
Dans un instant, on part aux États-Unis. Donald Trump serait-il en train de reconnaître sa défaite ? Dans sa dernière prise de parole, le président a semblé moins combatif pour garder son siège à la Maison-Blanche. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Riyad Satouf, Ophélie Meunier.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Riyad Satouf et Ophélie Meunier.
La suite de l'actualité, ça se passe aux États-Unis. Pour la première fois depuis le 3 novembre, Donald Trump a entrouvert la porte à une défaite face à Joe Biden. Ce dernier a d'ailleurs été conforté par les résultats définitifs qui sont tombés. Le démocrate a remporté au final 306 grands électeurs contre 232 pour le président sortant. Pour sa première prise de parole publique depuis une semaine, Donald Trump a évoqué la possibilité d'un revers électoral, mais c'est plus fervent. Fervents partisans continuent malgré tout de le soutenir. Une manifestation de casquettes rouges est prévue à Washington cet après-midi avec la crainte de quelques débordements. Mais surtout cette question, les supporters de Trump se mobiliseront-ils en masse ? Rien n'est moins sûr.
Depuis hier, on voit déjà dans les rues autant de policiers que de manifestants avec leurs casquettes rouges qui arrivent petit à petit dans la capitale fédérale. Les panneaux de bois installés sur toutes les vitrines avant l'élection sont encore présents. La crainte, c'est que dans les pas des supporters traditionnels comme Jim, venu remercier Donald Trump même s'il reconnaît qu'il n'a pas gagné, la crainte, ce sont ces groupes d'extrême droite, Proud Boys, complotistes du QAnon qui viendraient grossir les rangs de cette marche. Et surtout qu'en face, les Antifa et anarchistes qui se sont particulièrement mobilisés durant le mouvement Black Lives Matter sortent dans les rues également. Tiana, démocrate, ne restera pas en tout cas chez elle ce matin.
Je sais qu'on a beaucoup de fusils aux États-Unis, mais je pense qu'on peut régler ça pacifiquement.
Exhiber une arme est de toute façon interdit dans le centre de la capitale. La mairie et la police se disent très vigilantes pour Donald Trump, dont on ne sait pas encore si il viendra saluer la foule tout à l'heure comme il l'a écrit sur les réseaux sociaux. L'image sera en tout cas à double tranchant. Il y a 4 ans, un ou plusieurs millions de bonnets roses, de pussy hats, avaient défilé contre lui dans la capitale après son investiture. Quelques dizaines ou centaines de milliers de supporters seraient certainement un revers de plus.
Le reportage de Sinamir, envoyé spécial de RTL à Washington. Rendez-vous dans RTL Soir à partir de 18h pour vivre en direct depuis les États-Unis le déroulement de cette manifestation pro-Trump. Riyad Satouf, vous avez suivi cette folle semaine d'élection américaine ?
Ah oui, bien sûr, oui.
Je sais que New York vous inspire. Hein. En 2004, vous avez écrit et dessiné No Sex in New York. Vous referiez un album sur les États-Unis aujourd'hui ?
Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'un carnet de voyage dans l'Amérique de Trump ou post-Trump, qu'est-ce que ça va donner ? Un pays divisé en deux, comme ça va être étrange.
Vous viendrez en parler ici. Un mot de sport avec du foot. Le match de Ligue 1 Marseille-Nice qui devait avoir lieu samedi prochain devrait être reporté, pardon, car une grande partie de l'équipe niçoise est touchée par le Covid-19. L'événement foot du week-end, c'est le match de ce soir, France-Portugal en Ligue des Nations. Après la défaite contre la Finlande mercredi, gros enjeu pour les Bleus. Déjà faire oublier cette contre-performance et détrôner le tenant du titre, le Portugal. Le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, est au micro de Nicolas Georgerot.
L'euro est une compétition différente, il y aura une approche différente. Maintenant, en vue de l'euro, c'est toujours intéressant de pouvoir se confronter à des grandes nations, encore plus lorsqu'il y a de l'enjeu. Et je pense que voilà, le Portugal, c'est le tenant du titre du dernier euro, de la dernière Ligue des Nations. Il y a des nouveaux joueurs, des nouvelles têtes, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de talent. Forcément, ils feront partie des favoris. En tout cas, ils ont tout ce qu'il faut pour prétendre à ces trophées.
Le champion du monde contre le champion d'Europe, France-Portugal, c'est ce soir à 20h45. Et ne manquez pas nos rendez-vous foot sur l'antenne de RTL. On refait le match 18h30-20h et RTL foot jusqu'à 23h. Le sport, vous, Henriette Satouf, ça n'a jamais été une grande passion, non ?
Non, pas vraiment. Non,
mais
vrai.
Je sais que vous dessinez très 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 bien Michael Jordan.
Oui, c'est vrai. C'est ce que je raconte dans le tome 5. Mais c'est... Alors, j'ai essayé de... maintenant, c'est marrant parce que c'est à 42 ans que je fais du sport, en fait, je dis. J'en fais beaucoup plus que quand j'avais 20 ans.
Évidemment, il faudrait maintenant se mettre à dessiner très 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 bien Kylian Mbappé.
Oui, c'est ça, ouais.
Vous
moi, je préfère quand même Michael Jordan, je sais pas, il est plus flamboyant.
L'idole de tous les adolescents qui ont aujourd'hui une quarantaine d'années. L'Arabe du futur 5, c'est sorti il y a 10 jours. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'Arabe du futur, c'est une bande dessinée, une série qui raconte votre enfance et votre adolescence, vous, fils d'un père syrien et d'une mère bretonne. L'Arabe du futur, c'est un immense succès. Est-ce que maintenant, avant la sortie d'un tome, vous êtes plus détendu parce que vous savez plus ou moins que ça devrait marcher, ou il y a toujours ce stress de plaire à vos lecteurs?
Ah non, j'ai toujours très très peur en effet que mes lecteurs soient peut-être ou déçus ou commencent à en avoir ras-le-bol de,
parce qu'au bout du cinquième,
de ces histoires.
On se dit, bon, maintenant ils sont embarqués dans l'histoire de ma famille.
Oui, mais non, j'ai toujours.
Assez folle d'ailleurs.
Mais c'est vrai que non, j'ai toujours quand même une angoisse de j'ai envie que les gens ne ressentent pas que de la tristesse, qu'ils rigolent, qu'ils s'identifient, etc. Mais c'est vrai que, comme je le disais, j'ai tellement de lecteurs et qui font comme s'ils étaient des membres de ma famille, qui se demandent ce que deviennent les membres, les personnages, etc., que j'espère ne pas trop les traumatiser. Enfin, si, je sais qu'ils vont être traumatisés, mais j'espère qu'ils vont, quand même avoir envie de continuer.
Ça, on est marqué hein, quand même, parce que vous le faites avec beaucoup d'humour, mais l'histoire de votre famille est particulière.
C'est tragique et comique aussi. Ben voilà, les deux sont ensemble, mais il y a une fin et qui se terminera au tome 6.
Ah, et au tome 6, c'est la fin de l'histoire ?
Ben c'est la fin d'un premier cycle, oui, tout à fait.
Du cycle qu'on suit bien là dans l'Arabe du futur.
Dans celui-ci, tout à fait.
3 millions d'exemplaires vendus, 2 en France et 1 dans le reste du monde, traduit en 22 langues. Après la France, quels sont les pays où ça marche le mieux, vous savez ?
Oui, c'est en Allemagne et aux États-Unis.
Et à quand l'Arabe du futur ? En arabe ?
Eh bien, à la fin du tome 6, je pense, parce que les éditeurs arabes, donc il y en a très très peu, mais les éditeurs arabes qui voulaient traduire l'Arabe du futur ne souhaitaient traduire que le tome 1 et voir pour faire la suite si ça marchait. Or, moi, je ne voulais pas prendre le risque qu'il y ait
donc,
que le tome 1. Ben c'est en cours, je ne sais pas.
Au départ, il n'a pas été question de traduire l'Arabe du futur en arabe.
C'est moi qui ai refusé, parce que je ne voulais pas prendre le risque qu'il y ait que le tome 1 en arabe, parce que l'Arabe du futur, c'est toute l'histoire en entier. Et il y a plusieurs langues comme ça où je veux que toute l'histoire sorte vraiment en entier. Il y a l'arabe, l'hébreu et puis l'anglais.
Dans un instant, on continue à décrypter le monde à travers vos dessins et votre témoignage. Riyad Satouf, merci d'écouter RTL. Restez avec nous.
Le journal inattendu de Riyad Satouf
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Votre sujet de prédilection, c'est l'enfance et l'adolescence. Les adolescents vivent une période terrible. Hein. Depuis le début de l'année, on les empêche, on les enferme. L'adolescence, c'est quand même la période où on a besoin d'être libre, hein, de se sociabiliser, de découvrir la vie. On les stigmatise un peu. D'ailleurs, les jeunes, on leur reproche de ne pas assez respecter les règles sanitaires. Une soirée clandestine entre jeunes, en ce moment, vous comprenez ou ça vous agace ?
Non, franchement, ça m'agace.
Ah ouais.
Mais non, je suis assez rabat-joie sur se confiner pendant un mois
il
parce qu'il y a une bande.
Mieux que personne des jeunes et des ados, mais en revanche.
Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est rabat-joie. En effet, c'est très compliqué. Non, mais si on veut pas avoir une troisième vague et quatrième vague et cinquième vague, il faut quand même essayer de se dire que pendant un mois, on va tenir le coup. Alors c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde. Hein. Je pense que c'est difficile pour les mamies qui peuvent pas voir leur famille. C'est difficile pour. Mais voilà, moi je pense qu'il faut quand même essayer de faire corps et d'essayer de corps. Enfin disons faire pays comme ils ont fait en Asie justement où on se dit c'est compliqué, mais imposons-nous ça pendant un temps donné et on s'en débarrassera peut-être.
Donc votre message aux jeunes aujourd'hui, c'est de dire s'il vous plaît...
Jouez à la console. Prenez votre téléphone. Faites...
Je ne valide pas ce propos. Et non, lisez l'Arabe du futur.
Lisez l'Arabe du futur ou voilà...
jour de sortie de l'Arabe du futur, 5 Reporters sans frontières a aussi publié un album qui vous est consacré, Riyad Satouf, sans dessin pour la liberté de la presse. Honoré.
Ah oui, non, c'était un grand honneur, parce que c'est vrai que je me vois déjà pas du tout comme un reporter et encore moins comme un dessinateur de presse. Et quand ils m'ont proposé ça, j'ai dit oui, évidemment, tout de suite, parce que voilà, ils luttent pour la liberté d'expression partout sur Terre et que c'est essentiel.
À l'intérieur, il y a un très beau témoignage de Naja Al-Boukaï. C'est un dessinateur syrien en exil. Il affirme ceci. Satouf dit la vérité sur un monde qui ne veut pas l'entendre. Il réveille les détails de la réalité orientale qu'aucun artiste du monde arabe n'a osé aborder. Vous êtes d'accord? Ça vous fait plaisir ou au contraire, ça vous inquiète de savoir que aucun autre artiste aujourd'hui n'aborde aussi librement que vous la réalité du monde oriental?
Non, c'est vrai que ça me touche beaucoup qu'ils disent ça, parce que c'est vrai que moi, la Syrie, finalement, j'y ai passé une partie de mon enfance, mais c'est un pays que je connais très peu. Je connais très très bien le petit village musulman paysan où j'ai grandi.
Termalais.
Ouais, Termalais, voilà, à côté de Homs. Et voilà, qu'ils disent ça, mais je sais bien que voilà, le regard que je peux porter sur ces années-là est dur, cru, un peu de... Voilà, et si ça peut amener d'autres gens à avoir envie de raconter aussi leur expérience, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Je reçois beaucoup de témoignages de jeunes qui me disent, mais moi aussi, je suis à moitié suisse, à moitié algérien, j'ai envie de raconter mon histoire. Enfin voilà, si ça peut déclencher des envies de devenir auteur, moi je serais le plus heureux du monde.
En quelques semaines, notre pays a été frappé 3 fois par le terrorisme à Nice, à Conflans-Sainte-Honorine et un peu avant, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, journal pour lequel vous avez travaillé. Qu'est-ce que vous ressentez personnellement à chaque fois que vous apprenez ce genre d'événement terrible?
C'est évidemment effroyable et en même temps on se rend compte que ce qui est attaqué, c'est la liberté des idées, la liberté d'expression, la liberté de débattre, la liberté de ne pas être d'accord, la liberté d'avoir des avis divergents. Enfin, je ne sais pas, c'est la base même de ce qui fait la vie d'une démocratie comme la France et qui, en fait, quand on voyage pas mal, ce n'est pas si répandu, en fait, sur Terre. On pourrait croire, quand on a habité qu'en France, que c'est un pays affreux. Et le fait de dire que la France est un pays affreux, on a le droit de le dire ici, dans la majeure partie des pays du monde, on ne peut pas dire que... voilà. Donc ça, c'est vrai que la liberté qu'on a ici, la liberté d'expression qu'on a ici, il faut absolument la préserver. Et une manière de le faire, c'est de faire des livres, de continuer à défendre cette liberté d'expression et d'en profiter, en fait. Voilà.
À Conflans-Sainte-Honorine, c'était un prof qui a été assassiné. Je précise que de nombreux dessins de vous sont dans des manuels scolaires désormais, notamment pour raconter l'exercice de l'autoportrait que vous maîtrisez parfaitement. Ça vous a fait plaisir de voir que vous étiez utilisé par les profs?
Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'un jour, une professeure est venue me voir et m'a dit « Ah, j'utilise vos bandes dessinées dans mes cours et tout. » Alors moi, je pensais que c'était pour, je sais pas, la géographie ou la géopolitique. Pas du tout. C'était pour la première page de l'Arabe du futur et c'était pour apprendre aux élèves l'autodérision surtout. Se représenter soi-même avec humour, en se moquant un peu de soi-même. Et alors je me suis dit « Mais c'est génial, si mes bandes dessinées peuvent servir à ça, à avoir un autre regard sur soi et à pas se coincer soi-même dans une petite ornière comme ça, c'est génial. »
On vous doit aussi le succès Les Cahiers d'Esther. 5 albums sont déjà sortis. Quand vous avez rencontré Esther, 9 ans, la fille d'un de vos amis, elle vous a raconté naturellement son quotidien de petite fille parisienne de notre temps. Alors d'abord, vous en avez publié des pages hebdo dans l'Obs, avant d'en faire des BD à succès. Le mystère règne sur l'identité d'Esther, qui ne s'appelle évidemment pas Esther dans la vraie vie. À l'heure des réseaux sociaux et d'une hypercommunication, est-ce que c'est compliqué de la protéger encore?
Non, pas du tout, c'est très facile. Non.
Comment vous faites?
Tout simplement, en fait, elle s'en fiche un petit peu du projet, voilà. Enfin, là, disons que c'est ce qui me plaisait aussi, c'est qu'elle se moquait un peu de ses bandes dessinées, un petit peu, vous savez, comme les pingouins qui font pas attention à la caméra qui les filme. Et alors, c'est vrai que la bande dessinée a eu de plus en plus de succès, et maintenant, c'est arrivé qu'à son anniversaire, on lui offre des tomes des Cahiers d'Esther. Les gens savaient pas que c'était elle.
Non, mais alors, attendez, ça veut dire que même ses plus proches amis,
moi, je lui ai dit qu'elle pouvait le dire à qui elle voulait.
Les classe ne savent pas que
non,
c'est elle.
Non, elle le dit pas tout le temps, non. Mais c'est aussi parce que je change pas mal de choses. Ce qui fait aussi que je veux pas qu'elle devienne une psychopathe, vous savez, comme dans le film de Gone Girl de David Fincher. Je veux pas qu'elle grandisse avec son double de papier. Donc si elle disait qu'elle était la vraie Esther, les gens diraient ouais, mais non, regarde, c'est pas vraiment ça. Enfin voilà, je la protège comme ça surtout quand même.
Un journaliste de l'Obs, Arnaud Gonzague, est le seul, vous riez, à avoir eu le privilège de rencontrer la vraie Esther. Cette rencontre, vous en avez fait une page dans l'album 2017 où franchement, Arnaud Gonzague est pas à son avantage. Alors Dans cet album de Reporters sans frontières, il témoigne, Arnaud Gonzague, déjà, il rétablit, alors la vérité je ne sais pas, mais sa vérité sur cette rencontre, il est beaucoup plus à son avantage que dans l'album. Bah, vous en avez parlé avec lui.
Évidemment, il a une haute opinion de lui-même, il se met en avant. Non, mais c'est vrai que voilà, j'ai raconté ce petit reportage où il est très sympathique, Arnaud Gonzague, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'il a rencontré la vraie Esther, et j'ai retranscrit en fait le point de vue d'Esther sur lui. Par exemple, elle s'était moquée de son pull ou de sa coiffure, etc. Donc j'ai évidemment exagéré un petit peu sa coiffure et son pull, mais il a quand même dit, ce journaliste, que j'étais proche de la réalité quand je la décrivais.
À 14 ans, Riyad Satou, vous écoutiez du trash metal. Je n'invente rien, c'est écrit page 125 de l'Arabe du Futur 5, allez voir. Vos goûts musicaux ont visiblement évolué, car une de vos chansons préférées aujourd'hui, c'est celle-ci, Georges Brassens, La balade des gens qui sont nés quelque part.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourses et hameaux, ces lieux-dits, ces cités. Avec leur château fort.
Et vous chantonnez les paroles par cœur.
J'adore Georges Brassens.
C'est pas du trash metal, hein.
Non, mais le hard rock n'empêche pas une certaine sensibilité pittoresque française. J'adore j'ai de très nombreux chanteurs français comme ça que j'aime beaucoup. J'adore Bourvil, j'adore Léo Ferré, voilà.
Bourvil qu'on entendra aussi tout à l'heure. Dans un instant, le rappel des titres. Votre météo, Riyad Satouf, et votre invité, le commandant Samuel Lanos, leader de la patrouille de France. À tout de suite.
Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
RTL, le journal inattendu.
RTL. Il est 13h.
Journal inattendu de Riyad Satouf.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
C'est une information RTL et c'est une conséquence à déplorer du confinement, le nombre de grands excès de vitesse, c'est-à-dire ceux de plus de 50 km/h par rapport à la limite autorisée, a explosé. Et pas que, le trafic est également plus dense depuis le reconfinement que pendant le premier confinement du printemps. Information révélée par Marie Gauthier-Melleret, déléguée interministérielle à la sécurité routière. Elle est au micro de Christophe Bourroux.
Sur la semaine du 2 novembre, on a constaté plus 50% sur les grands excès de vitesse, au-delà de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Il n'y a sans doute pas que ça, puisque autant durant le premier confinement, on avait constaté une baisse très très forte du trafic, autant sur ce deuxième confinement, la baisse du trafic n'est pas aussi importante, puisque le travail continue. Donc il y a aussi sans doute d'autres facteurs, peut-être lorsque les contraintes sont très fortes par ailleurs, l'envie de se débarrasser de contraintes ou de ce qui est perçu comme une contrainte sur la route.
Donc plus d'excès de vitesse car il y a moins de trafic, mais aussi parce que nous exprimons de cette manière un besoin de liberté. Pour ceux qui travaillent et qui conduisent, restez prudents. N'oubliez pas de remplir vos attestations de déplacement. Le ministre de l'Intérieur a demandé cette semaine un renforcement des contrôles. Selon Gérald Darmanin, la question aujourd'hui n'est pas d'aménager les règles sanitaires, mais de mieux faire respecter le confinement. La situation sanitaire est toujours préoccupante en France. 467 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures. Et à ce jour, 95% des lits en réanimation sont occupés dans les hôpitaux. Autre information de la matinée, le Sénat a voté très largement le doublement du congé paternité. Il passe de 14 à 28 jours, dont 7 jours obligatoires. Cette mesure phare du projet du budget de la Sécurité sociale a été votée par 341 voix pour et seulement 2 contre. La mesure doit entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2021, tout juste dans 9 mois, avis au futur papa. Le foot, tous les yeux seront rivés ce soir sur nos Bleus qui rencontrent le Portugal, actuel tenant du titre en Ligue des Nations, mais aussi champion d'Europe. L'équipe de France doit faire oublier la défaite contre la Finlande mercredi soir et se rassurer également face au Portugal, une des meilleures sélections au monde et adversaires qu'ils retrouveront également lors du prochain Euro. France-Portugal, c'est à suivre en direct ce soir dans RTL Foot. Et la météo du week-end, Riyad Satouf, il paraît que c'est ensoleillé.
Alors, une météo souvent ensoleillée cet après-midi. Il y aura toutefois un ciel plus chargé avec quelques averses en Languedoc et en Roussillon, mais également de l'autre côté du pays, en Bretagne. Et dans le Cotentin, avec des pluies orageuses accompagnées de vents forts. Du coup, le ciel sera assez gris du pays nantais jusqu'au Hauts-de-France, mais partout ailleurs, ce sont les éclaircies qui domineront. Les températures seront comprises entre 15 et 21 degrés de Verdun à Marseille, et il fera 17 degrés à Paris, comme dans cette bonne vieille ville de Rennes.
Il y avait un petit air d'Esther.
Ah oui.
Non. Dans l'Arabe du futur 5, on découvre que pendant votre adolescence, vous commencez à développer une passion pour l'univers de l'aviation. Aujourd'hui, Riyad Satouf, vous avez choisi de recevoir un invité de marque. Le commandant Samuel Lanos est avec nous, pilote de chasse et leader de la patrouille de France. Bonjour, commandant Lanos, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour Ophélie, bonjour Riyad.
Alors Riyad Satouf, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi de recevoir le commandant Lanos aujourd'hui.
Alors écoutez, c'est vrai que la patrouille de France et l'aviation, ça me renvoie directement à l'adolescence. J'allais très souvent avec mes grands-parents voir des meetings aériens où il y avait la patrouille qui faisait ses acrobaties. C'est quelque chose que je trouve personnellement magique. Alors je suis passionné d'aviation, j'ai grandi avec les récits de l'aéropostale, Saint-Exupéry, Mermoz, etc. Et j'ai toujours, quand j'étais ado, j'aurais aimé devenir pilote, mais hélas, j'étais pas très très bon en cours et j'avais des yeux un peu pourris. Enfin, c'est ce que je m'explique aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est la patrouille de France, c'est quelque chose que je trouve très apaisant de savoir qu'ils existent. Je sais pas comment le dire autrement. D'ailleurs, j'encourage les auditeurs à les suivre sur les réseaux sociaux. Ils ont un super compte Instagram, super compte Twitter. Il y a plein de vidéos géniales. Et c'était l'occasion aujourd'hui de pouvoir poser quelques questions au commandant Lanos.
Alors, merci d'exister, commandant Lanos.
Ouais.
Avant de laisser la parole à Riyad Satouf, qui a pas mal de questions pour vous, est-ce que vous êtes amateur de bande dessinée et du travail de Riyad?
Oui, bah, tout à fait. Hein. Quand Riyad m'avait envoyé un message pour me contacter il y a quelques mois, c'est amusant parce que c'est un des auteurs que j'aime beaucoup lire. J'ai découvert par Pascal Brutal, qui est une BD qui m'a vraiment plu, par son ton assez décalé et post-apocalyptique. Et ensuite, l'Arabe du futur, ça, moi, je trouve ça vachement sympa, ces récits autobiographiques où l'auteur arrive en fait à donner un propos qui peut atteindre un adolescent ou un adulte et puis transmettre un message, une vue avec du recul. Enfin, je trouve ça vachement intéressant et vachement fin.
Alors Riyad Satouf, je sais que vous avez préparé pas mal de questions pour le commandant Lanos. Je vous donne la parole.
Non, mais écoutez,
je vous laisse jouer au journaliste.
Non, alors je voulais savoir, commandant, ça a été quoi votre parcours scolaire, par exemple, un jeune qui voudrait devenir pilote comme ça, comment ça se passe aujourd'hui? Et vous, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, pour être pilote de chasse, en fait, il y a deux recrutements. Il y a un recrutement qui permet d'être officier de carrière, donc c'est pour vraiment avoir une carrière longue dans l'armée de l'air, et un autre recrutement qui permet d'être officier sous contrat. Et donc là, les candidats font à peu près 20 ans max dans l'armée. Donc moi, j'ai un recrutement d'officier de carrière, donc pour ça, j'ai fait des classes préparatoires maths sup, maths spé, et ensuite, j'ai passé le concours de l'école de l'air que j'ai intégré en 2004, et ensuite, j'ai suivi la formation d'officier, puis de pilote de chasse. Mais j'ai beaucoup de collègues en escadron qui eux ont été retenus après une sélection post-bac, donc ils avaient juste le bac en poche et ils ont été retenus comme ça et aujourd'hui j'ai une carrière de pilote de chasse qui est tout à fait qui est exactement identique à la même, quoi, sauf qu'on est en escadron. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on croit souvent pour être pilote de chasse il faut être très fort en maths. Bon, moi j'ai fait maths sup, maths spé, mais il y en a d'autres qui ont fait quelque chose de très différent et qui parfois n'ont que le bac quand ils se présentent à la porte d'entrée de l'armée de l'air pour devenir pilote de chasse. Donc ça, il faut pas l'oublier, parce que souvent des gens se ferment des barrières pour ça alors que il existe plein de solutions pour y arriver.
On sait que c'est un quotidien très timé, très rythmé. Est-ce que la vie de pilote de chasse est une vie stressante?
Quand même un petit peu, parce que forcément il y a beaucoup d'échéances, il y a beaucoup d'enjeux, il faut tout le temps progresser aussi en termes de qualification. Et parfois, il y a des missions qui sont importantes, hein, des missions sur des théâtres d'opérations. Donc forcément, il y a du stress, ça fait partie du quotidien, je dirais, mais on apprend à le gérer. Voilà, chacun a ses méthodes, mais c'est évident qu'il faut savoir un peu gérer le stress au quotidien. Ouais.
Et alors, qu'est-ce qu'on ressent, commandant, quand on entre dans la patrouille de France? Parce qu'est-ce qu'il y a un moment, comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce que c'est la patrouille qui choisit ses pilotes, ou est-ce qu'on postule? Et surtout, comment on devient leader de la patrouille de France, qui doit être quand même le top d'une carrière de pilote de chasse, quand même?
En fait, je ne dirais pas que c'est le top, puisqu'il y a plein de carrières qui sont différentes et diverses et qui sont tout aussi fabuleuses. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est au poste, on réalise ce que ça représente vraiment et à quel point c'est important. Pour intégrer la patrouille, en fait, il y a des prérequis, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain nombre d'heures de vol, des qualifications mini pour prendre des gens expérimentés. Donc tous les ans, il y a des candidats qui respectent ces critères, qui se présentent à la patrouille. Et là, par contre, la deuxième étape de la sélection, c'est les pilotes en place à la patrouille qui reçoivent les candidats un par un qui échangent avec eux autour pendant une journée et qui ensuite décident avec entre eux quel pilote ils veulent voir intégrer l'équipe l'année prochaine. Il n'y a aucune sélection technique, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux candidats de faire une boucle avec nous, un tonneau ou quoi que ce soit. Il y a zéro critère technique puisque la méthode de travail à la PAF est très particulière et en fait, personne ne peut y arriver s'il n'a pas suivi l'entraînement. Donc, ça n'a aucun sens de faire une sélection technique. Donc, tout se base en fait sur le ressenti, sur l'humain, puisque la construction humaine de l'équipe future est hyper importante. Voilà.
Commandant Lanos, comment vous vivez cette période de confinement? Est-ce que vous pouvez toujours travailler, voler?
Ah, oui, on a cette chance de pouvoir continuer à nous entraîner, ce qui est important pour nous, puisque on pourrait s'apparenter à des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire que si on arrête de s'entraîner pendant un laps de temps trop long, quand on monte dans les avions, on est moins bon, on est moins technique, on a moins confiance dans ce qu'on fait. Et la base de notre travail, hein, c'est quand même d'être très technique, mais surtout d'avoir confiance les uns envers les autres. Et pour ça, on a besoin de voler souvent. Alors cet été, évidemment, on a fait très très peu de meetings, hein, puisqu'ils ont tous été annulés à cause du Covid. Donc on espère que la saison prochaine sera un peu plus fournie. Et bon, voilà, on croise les doigts là-dessus. Ouais.
Alors, dernière question. Je vous avais contacté sur Instagram, en effet, parce que vous aviez posté une photo de vous avec un livre d'Antoine de Saint-Exupéry. Et moi, j'avais vu que dans votre étagère, il y avait mes BD, donc j'en avais profité pour vous écrire. Ouais. Mais quelle place a eu la littérature pour vous? Est-ce que ça a eu une place pour décider que vous deveniez pilote, par exemple, Saint-Exupéry, tout ça, comme vous le disiez?
Oui, je dirais que la littérature a joué un rôle important. Puisque mon désir d'être pilote de chasse, je cultive depuis très jeune, depuis que je suis en CE1, je crois. Et ce qui m'a vraiment, je me suis vraiment construit un imaginaire en fait, en lisant surtout des récits d'aviation de la Seconde Guerre mondiale, notamment Le Grand Cirque de l'as français Pierre Klosterman, qui est vraiment un livre magnifique où on vit ses combats dans son cockpit. Ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu transporté quand j'étais petit. Puis j'ai lu d'autres récits également de cette époque-là. Et après la littérature aussi d'aéronautique, mais un peu plus adulte, comme Kessel avec Mermoz ou alors Saint-Ex, c'est des choses que j'ai abordées plus tard, mais je dirais que mon imaginaire, j'ai surtout construit sur les récits de la Seconde Guerre.
Merci beaucoup, commandant Lanos.
Merci
le message
beaucoup.
Pour les jeunes, que ce soit avec vous ou avec Riyad Satouf aujourd'hui, je crois, c'est croire en ses rêves. Hein.
Mais bien sûr.
Tout à fait.
Restez avec nous, à tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Riyad Satouf
avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Riyad Satouf
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Riyad Satouf, découvrir Tintin à l'âge de 4-5 ans a déterminé la suite de votre existence. En lisant Tintin, vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire, moi je veux être Hergé. Aujourd'hui, il y a sûrement des enfants, des jeunes, qui vous lisent pour la première fois et qui se disent, moi plus tard, je veux être Riyad Satouf. Ça vous fait quoi?
Ça me fait trop plaisir parce qu'en effet, j'ai beaucoup d'enfants et de jeunes qui m'écrivent sur mon compte Instagram. Par exemple, ils m'envoient leurs dessins, etc. Et c'est vrai que j'ai bien fait attention quand j'ai fait l'Arabe du Futur à faire une bande dessinée qui soit lisible par des gens qui lisent pas de bande dessinée et surtout que mes personnages soient finalement pas si compliqué à dessiner. J'ai beaucoup d'enfants qui dessinent mon petit personnage avec ses cheveux blonds, etc. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup
petit
chez Hergé.
Ouais.
Voilà, c'était que si vous voulez dessiner Tintin à la perfection, c'est ultra dur parce qu'il n'y a que Hergé qui peut le faire. Mais vous pouvez faire semblant que vous avez dessiné Tintin, faire un petit rond, une petite houppette. Et donc ça, quand on est enfant et qu'on sent qu'on a les moyens de dessiner un truc, on se dit ouais mais c'est pas si difficile, on s'auto-motive en fait. Et c'est vrai que voilà, s'il y a des jeunes qui deviennent auteurs grâce à moi, je serai le plus heureux du monde.
En tout cas, il y a deux illustratrices qui vous admirent, que vous inspirez, ce sont les sœurs Sorlet, Agathe et Lorraine, elles sont jumelles et vous avez souhaité nous emmener à leur rencontre. Elles dessinent l'amour, les femmes, des bisous, c'est frais, joyeux et coloré. C'est votre reportage inattendu, il est signé Monique Younes.
L'histoire des sœurs Sorlet, c'est celle de jumelles timides qui ont toujours eu le dessin comme passion, et c'est Lorraine qui le raconte.
C'est sûr qu'à l'école, surtout en primaire, moi j'étais assez timide, Agathe aussi, et en fait mon lien avec les autres enfants c'était dessiner. Donc en fait quand ils me voyaient dessiner, ils trouvaient ça trop cool, ils voulaient que je leur fasse aussi des petits dessins. Du coup, c'était aussi ma façon de m'exprimer et de me faire des amis.
Gamine, Lorraine et Agathe lisaient des mangas et les albums de Titeuf. Puis, à l'adolescence, elles découvrent Pascal Brutal et la vie secrète des jeunes de Riyad Satouf.
La manière dont il raconte les histoires et ses BD, c'est incroyable. Et le fait qu'il ait une réussite, c'est super motivant. Du coup, je me suis dit, bah oui, potentiellement, on peut y arriver aussi, quoi.
Devenues dessinatrices, Agathe et Lorraine Sorlet racontent dans un style naïf, très coloré, la vie des couples amoureux.
Ce qui est rigolo, on a toujours dit « Ah, vous devez être tellement amoureuse, tellement heureuse en amour ». En fait, ça a été longtemps l'inverse. On a été souvent malheureuse en couple. C'est la quête un peu de qu'est-ce que c'est être heureux en amour, qu'est-ce que c'est l'amour, tout ça, c'est ça qui nous inspire. Et en fait, quand on est malheureux en amour, finalement, je trouve que c'est vachement inspirant pour dessiner le couple heureux.
Il y a 4 ans, Lorraine et Agathe décident enfin de rencontrer leur idole. Ça tombe bien, Riyad Satouf dédicace l'Arabe du futur dans une librairie à la Bastille.
Du coup, on fait la queue, on se dit « Ouais, c'est génial, on va bientôt rencontrer Riyad Satouf ». En plus, c'est marrant parce que dans la queue, tout le monde était vachement « Ah, Riyad Satouf, il est trop beau ouais. !» En fait, c'était hyper drôle. Et du coup, finalement, c'est notre tour. Du coup, Agathe, elle était très stressée. Enfin, moi, j'étais vraiment submergée d'émotions, quoi. En fait, dans ma vie, je suis pas une fan girl. Mais là, j'étais fan de Riyad Satouf. C'était vraiment fan numéro 1, quoi. J'adore son travail, quoi. Je crois qu'il nous a demandé ce qu'on faisait. On a dit qu'on était, du coup, illustratrice et qu'on était trop forte. Du coup, ça l'a fait rire. Et du coup, le soir même, il nous a rajouté sur Facebook. Et au final, en fait, on a créé une conversation Instagram. On est collègues de travail. Hein. C'est cool, c'est super bienveillant. On se donne plein de conseils parce que lui, il a plein de conseils à nous donner. Nous aussi, en fait, parce que c'était pas le roi du réseau. En fait. Donc, en fait, on lui a donné beaucoup d'astuces sur Instagram. Et puis aussi, il a créé son shop en ligne. Et ben, on lui a donné beaucoup de conseils sur où imprimer, comment ça marche, des trucs comme ça. Alors, Riyad, je voulais te poser la question, à quand un vrai projet d'illustration ensemble avec Lorraine et moi ?
Je vous ai entendu beaucoup rigoler pendant ce témoignage. C'est pas un pro des réseaux, Ria, non ?
Non, bah, elles exagèrent parce que quand même, mon compte Instagram, j'ai quand même pas mal d'abonnés. Mais c'est vrai qu'alors, elles ont des centaines de milliers de followers. Et souvent, quand des jeunes, d'ailleurs, me demandent « Mais qu'est-ce que vous me conseilleriez pour que je me lance en tant qu'auteur ?» Bah, elles, c'est l'exemple type. C'est-à-dire qu'elles se sont lancées sur Instagram. C'était quelque chose qui n'existait pas à mon époque. Vous postez tous les jours des dessins et vous avez une communauté de centaines... Agathe, elle a 700 000 followers sur Instagram. Donc, en effet, j'étais très friand de conseils pour moi-même, pour mon propre compte Instagram. Et ce sont des illustratrices très talentueuses qui se débrouillent toutes seules. Et
alors, à quand le projet avec les sœurs Sorlet ?
Oh, peut-être un jour, mais bon, pas tout de suite, on va voir.
Alors, leur thème de prédilection, c'est donc l'amour, un thème universel qui, selon elle, parle à tout le monde et rend les gens heureux, comme cette chanson de Bourvil dont on a parlé tout à l'heure, La tendresse qui fait du bien, et qui est aussi une de vos chansons préférées.
On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non.
Dans un instant, on a une petite surprise pour vous, Riyad Satouf. Est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être ?
Non, pas du tout.
Eh bien, on va le savoir dans un très court instant. Restez avec nous, à tout de suite sur RTL.
Voir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour.
RTL, le journal inattendu.
Des jours.
Journal inattendu de Riyad Satouf
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Nous sommes avec Riyad Satouf, dessinateur mais aussi réalisateur. Alors parlons cinéma. On vous doit notamment le succès des Beaux Gosses avec Vincent Lacoste.
Tourne pas toujours ta langue dans le même sens.
Mais attends, mais c'est mon style de roulage de pelle. Chacun son style de roulage de pelle. Heureusement que tout le monde n'a pas la même technique. Chacun sa technique.
Et t'as embrassé qui déjà ?
Bah, des autres gens. Ouais.
Alors on fait cette voix là ?
C'est du vécu.
Non, parce que en fait, hélas, non, parce que j'ai jamais embrassé une fille au collège. Il a fallu que je fasse un film pour faire croire que c'était arrivé.
Dans le cinéma, vous avez fait de belles rencontres, dont une sur le tournage de votre autre film, Jackie au Royaume des Filles. Bonjour Didier Bourdon.
Oui,
merci
bonjour.
Merci d'être avec nous et de faire cette petite surprise.
Bonjour Didier.
Bonjour
Didier. Alors comment ça s'est fait le choix de Didier Bourdon et Riyad Satouf pour le casting de Jackie au Royaume des Filles ?
Très simplement, en fait, j'ai toujours rêvé de pouvoir travailler avec Didier Bourdon. C'est un acteur qui m'a influencé dans tout mon travail. Alors, je ne sais pas s'il va aimer tout ce que je dis, parce qu'il aime.
Mais il va pouvoir nous le dire, il nous écoute.
Mais c'est vrai que, par exemple, Les Inconnus, Bernard Campan, Pascal Légitimus et lui, en fait, ils m'ont influencé dans la façon de voir le monde. Et l'interprétation qu'avait Didier de tous les personnages était quelque chose... Il y avait une noirceur dans Les Inconnus, mais en même temps, une justesse incroyable de capter des petits détails de ce qui fait une personnalité. Et je pense tout le temps à lui, à sa... Par exemple, quand je vais voir... Je vois parfois, très souvent, des films qui sont extrêmement considérés comme des grands chefs-d'œuvre, par exemple des reconstitutions historiques ou des choses comme ça. Et souvent, je me dis que les acteurs sont très mauvais. Et je pense tout le temps en me disant, mais Didier serait tellement meilleur qu'eux dans tel ou tel rôle, d'interpréter un chevalier ou un... Je sais pas, c'est un acteur génial.
Sacré beau compliment, Didier Bourdon.
Je vais arrêter de parler.
Bah écoutez, je vais raccrocher, moi.
En tout cas, depuis le tournage de Jackie au Royaume des Filles, vous avez gardé un contact et un respect mutuel pour le...
Ah oui, bien sûr, moi j'adorerais refaire un jour un film avec toi, Didier, ce serait un...
Avec plaisir, oui. Ben, oui, écoute,
Vous avez lu Les Arabes du Futur, Didier Bourdon ?
Alors oui, alors dernièrement, c'est un peu le hasard, mais Riyad m'a envoyé un texto en me disant rappelle-moi ton adresse, et puis il m'a envoyé les 5 tomes. Et l'autre fois, je les ai cherchés, je les trouvais pas, je me suis dit, c'est pas possible, où est-ce qu'on les a mis ? En fait, mon fils les a embarqués. mais il m'a dit, soi-disant, non, mais tu m'as permis. J'ai dit oui, d'accord, mais bon, je m'en souvenais pas vraiment, quoi. Parce qu'une fois en confinement un petit peu familial, mon fils habite près de chez moi, et voilà, et de temps en temps, le dimanche, il vient, et là, je crois qu'il m'a, ouais, il a fait la rate, dire. Mais bon, il m'a promis qu'il allait me rendre, hein, quand même. Enfin, j'ai lu quand même les premiers tomes, tout de même, à l'époque. Mais le cinquième, non, ça, je l'ai pas lu. Et c'est pour ça que c'est un peu le hasard que, voilà, Riyad m'a gentiment envoyé tout ça, il y a pas longtemps.
Comment vous vivez cette période compliquée pour le monde du cinéma? Je crois savoir, Didier Bourdon, que vous tournez, en ce moment. Vous avez quand même la possibilité de travailler.
Oui, Dieu merci, oui, je me plains pas. C'est le prochain film d'Alexandre Leclerc avec Josiane Balasco. Alors bon, bien sûr, il y a énormément de mesures. Hein, on est tous masqués, sauf les acteurs quand on joue, bien évidemment. Alors c'est drôle parce que maintenant, avant moteur, on enlève les masques et après on remet les masques. Voilà, après pour la cantine aussi, c'est un petit peu compliqué, mais bon, on va pas se plaindre. Déjà, on arrive à tourner, c'est déjà formidable.
Riyad Satouf parlait des Inconnus. Est-ce que vous savez quel est le sketch préféré de Riyad Satouf, des Inconnus ? C'est celui sur la police.
Oui, c'est ça. On me l'avait dit, mais oui, c'est vrai que c'est pas les présentations, c'est ça, non, qu'il aime beaucoup, je crois.
Non, moi, j'ai des tonnes de sketchs des Inconnus que j'adore, mais celui-là, je l'aime particulièrement parce que je trouve que leur façon de se présenter en regardant la caméra,
c'est ça.
Ça mérite un Oscar.
Alors, on n'a pas l'image, mais on a le son.
Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef. Et agents de la paix avant tout.
Mais qui sont-ils, ces hommes ?
Non, ce n'est pas qu'on est des surhommes. Nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout.
A fortiori.
je comprends rien de pourquoi il apprécie. C'est vrai que là, pour un acteur, c'est sympa parce que c'était les débuts de la télévision qui s'immisçait un petit peu dans la vie professionnelle des gens. Et là, les flics sont un petit peu tétanisés par la caméra. Et c'est sympa pour un acteur de jouer le type qui se faisait qui essayait d'être normal, naturel avec ses amis. En fait, pour des conneries, ils sont très très aimés. Pascal et Bernard, d'ailleurs Bernard, je sais que mon père aimait beaucoup ce sketch, que Bernard, il disait on voit la tapisserie derrière tellement son regard est vide.
C'est le regard de Bernard Campan est hallucinant, on a l'impression que c'est un ancien traumatisé.
Alors, justement, on dit que vous, Didier Bourdon et Pascal Légitimus êtes favorables à un retour des Inconnus sur scène, Bernard Campan serait moins emballé.
Je crois qu'il est resté scotché. Non, tout est ouvert, on ne sait pas encore, franchement on ne sait pas. Je crois que Bernard est quelqu'un qui a peur un petit peu.
Ouais.
Et c'est vrai que il a peut-être besoin qu'on le persuade. Peut-être que son ami Alexandre Jolien, qui vient de faire un film, va peut-être un petit peu le soutenir là-dessus. J'avoue que moi aussi j'ai peur de remonter sur scène. Hein. Mais je sais qu'avec mes deux amis, j'ai peur de rien.
On l'espère en tout cas.
Voilà.
On va suivre ça. Merci.
En tout cas, je voulais remercier. Riyad, pour tout ce qu'il fait pour tout le monde, parce que vraiment, il transmet un message humaniste qui est formidable en plus de son talent.
Merci à vous d'avoir fait cette petite surprise à Riyad aujourd'hui. Bon week-end et bon tournage. À bientôt. Chaque semaine, je propose à mon invité de laisser un message à une personne de son choix. Si vous souhaitez faire passer une demande ou parler à quelqu'un que vous n'avez jamais eu l'occasion de rencontrer, ben c'est le moment. Alors Riyad Satouf, à qui avez-vous décidé de laisser un message aujourd'hui ?
Alors, c'est pas très original, mais je vais quand même le faire, c'est à Hergé. J'aurais bien aimé lui laisser un petit message sur son téléphone, et puis lui dire que un de ses conseils principaux qui était de faire très attention à son lecteur et de faire en sorte que les bandes dessinées soient très lisibles, et ben c'est, j'y pense tout le temps. Et à chaque fois que je me dis que je vais commencer à faire un dessin ou que je vais frimer avec mon style de dessin, je repense toujours à Hergé, qui m'aurait dit « Arrête de faire le malin et concentre-toi sur le fait que ta bande dessinée soit lisible correctement. » Et voilà, et c'est vrai que merci Hergé pour ça.
Nous, lecteurs de Riyad Satouf, on remercie alors aussi Hergé pour ça. Merci Riyad Satouf d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'Arabe du futur 5, c'est disponible en clic et rapplique. Je reprends votre expression que j'aime beaucoup. L'album de Reporters sans frontières qui vous est consacré, c'est disponible également et c'est un achat engagé. Je rappelle également que la saison 2 des histoires de votre petite Esther est disponible en DVD. Tout de suite sur RTL, c'est Confidentiel, présenté par Jean-Alphonse Richard et consacré à Carole Bouquet. La semaine prochaine, mon invité Yann Kefelek. Passez un très bon week-end et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 12h30 avec plaisir.
Le journal inattendu sur RTL.